Merci. Soyez bénis aussi. Et puis, je vous souhaite la bienvenue pour ce culte. C'est super. Merci. Alors, ce matin, je vais vous parler de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est dire merci. Hein? On n'en parle pas toujours. Elvire nous en a parlé il y a 15 jours. Elle en avait déjà parlé il y a 15 jours. Et j'avais déjà eu l'idée de vouloir faire ce message sur la reconnaissance. Alors, ça complète. Quand je prépare des messages, tout à coup j'ai des idées qui me viennent comme ça. Alors des fois ça sort un petit peu du sujet, mais je vous fais part de l'idée qui m'est venue en étudiant le texte. Après je repars dans le texte. Ça peut des fois paraître un peu décousu, mais j'aime bien vous faire partager aussi ce que je découvre. Voilà. Vous avez, alors c'est la reconnaissance. Avez-vous réalisé dans la vie combien on peut être sensible à un petit geste de gratitude et de reconnaissance et de remerciement? Par exemple, vous êtes au volant de la voiture, vous êtes en ville, et puis vous arrivez devant un passage clouté, un piéton s'engage, vous plantez les freins, enfin, ça dépend comment vous roulez, vous arrêtez, et puis le gars, il passe devant vous sans rien vous dire. Ça arrive combien de fois? Il n'est pas obligé de nous dire quelque chose, il est dans son droit. Mais juste, tac! Alors je me dis, non, celui-là, il n'est pas sympa. Il aurait quand même pu voir que je me suis arrêté. Si quelqu'un nous fait un petit signe sympa, ben, ça fait plaisir. Ben, je dis, ouais, ben, le gars est sympa. Donc, juste un petit geste comme ça. Pas besoin de... Pourquoi c'est si important? Parce que quand on fait un petit geste comme ça, j'existe. Je suis là. C'est autrement, je suis ignoré. Et je pense aussi que, je ne sais pas si vous avez réalisé le nombre de fois que vous dites merci dans la journée. Alors c'est sûr que ça n'a pas été un apprentissage facile, en tout cas pour moi. Et je pense que vous vous souvenez tous des parents, qu'est-ce qu'on dit à la dame, qu'est-ce qu'on dit au monsieur, patati, patata, mais quand même, etc. Bon, pour finir, c'est quand même rentré. Et je crois que c'est un des béabas de la politesse, c'est de dire merci. Et c'est de la reconnaissance déjà. C'est un petit geste qui permet le vivre ensemble. Et c'est tout à fait normal, c'est un geste social de dire merci au garçon ou serveur dans un tea room qui vous apporte un café et vous lui dites merci. Si vous ne lui parlez pas, si vous continuez à discuter avec votre personne en face, bien lui, il n'existe pas, il est transparent. Et c'est très difficile de vivre en étant transparent. Mais la reconnaissance que je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas cette reconnaissance de politesse, même si elle est très importante. C'est la reconnaissance biblique qui se résume, qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus sérieuse, qui est beaucoup plus interne. Elle est au fond, elle vient du fond du cœur et elle détermine nos paroles et nos actes. Vous savez, dans le christianisme, il y a quelques fondements, des mots qu'on emploie comme ça, qui sont toujours très solennels, hein? La foi, le salut, la confiance, la conversion, et la reconnaissance doit aussi en faire partie, parce que ça fait vraiment partie du cœur de la foi chrétienne. Et pour résumer, pour faire court, mais pour vous montrer que tout est interconnecté, je peux dire que la foi est un chemin de confiance, de conversion et de reconnaissance qui nous conduit au salut. Vous voyez, tout est lié. Et c'est ce que nous allons voir ce matin par le texte que je vais lire maintenant, qui se trouve dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les dix n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Magnifique texte. Et voyez-vous, quand je lis la Bible, quand je lis des textes comme ça, je suis toujours impressionné par le condensé des textes. En peu de mots, en neuf versets, qui sont encore concis, il y a une histoire qui est relatée, on peut la visualiser, on peut en tirer un enseignement. Je trouve ça incroyable. Moi, si j'avais dû écrire une histoire comme ça, eh bien, en fait comme ça, j'aurais mis plus de mots. Je vous garantis que je n'aurais pas été réussi aussi, être aussi concis. Et je suis toujours émerveillé quand je lis la Bible. Je dis, pourtant la Bible a beaucoup de pages, donc elle a beaucoup de choses à dire. Mais comme ces textes sont concis. Et en plus, il y a encore quelque chose qui est plus subtil, c'est que souvent, tout n'est pas dit, mais suggéré. Cherchez et vous trouverez. Il y a toujours quelque chose à chercher derrière ce qui est écrit. Et pourtant, c'est suggéré. Et j'aime beaucoup lire la Bible pour ça. Mais revenons à notre histoire avec, au préalable, quelques explications pour mieux la comprendre. Pourquoi les 10 lépreux se tiennent-ils à distance de Jésus? À l'époque de Jésus, avoir la lèpre avait des conséquences terribles pour celui qui en était affecté. Le lépreux était considéré comme impur, à la fois sur le plan humain et sur le plan religieux. Ce qui avait pour résultat que la famille, la communauté, la synagogue, tout était fermé. Tout lui était interdit, car la loi interdisait à Moïse de vivre dans la communauté et ils étaient exclus, hors du camp. Et en plus, on soupçonnait les lépreux d'avoir commis des péchés graves, d'où la punition de Dieu qui leur envoyait la lèpre. Donc, ces pauvres lépreux, ils avaient une triple peine. Ils étaient malades, ils étaient exclus et ils étaient maudits. Et on peut lire dans le Lévitique 13, au verset 45, « Aussi longtemps que le mal sera sur lui, le lépreux sera impur. Étant impur, il habitera seul, son lieu d'habitation sera hors du camp. » Ça mérite d'être clair. Mais si Jésus ne s'approche pas des lépreux, ce n'est pas parce qu'il a peur de leur impureté, bien au contraire. Il n'a pas peur de la maladie. Parce qu'en Luc, au chapitre 5, nous avons un autre texte où il est parlé de lépreux avec Jésus. Et je vais vous le lire. C'est 5, 12, 14. Jésus était dans une de ces villes. Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face. Elle lui dit cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis Jésus dit, « Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » J'aimerais répéter ici et souligner quelque chose qui me paraît très important. Jésus n'a pas peur de l'impureté, il n'a pas peur de la maladie, il ne craint pas que l'impureté le contamine. Bien au contraire, c'est sa pureté qui purifie toutes nos impuretés, c'est sa sainteté qui nous sanctifie. Et par extrapolation, en gardant la même ligne de pensée, je peux dire, Jésus n'a pas peur de nos péchés. C'est nous-mêmes qui sommes si souvent effrayés par le péché des autres, comme s'ils allaient nous souiller. D'où notre tendance naturelle à éviter ceux qui ne correspondent pas à notre façon de vivre, à notre façon de penser ou à notre façon de croire. Mais revenons au texte. Dans l'histoire qui nous intéresse ce matin, Jésus donc ne touche pas les lépreux. Jésus les voit et les renvoie directement au prêtre. Pourquoi? Premier abord, on pourrait dire, si on lit vraiment ce texte superficiellement, qu'il leur refile la patate chaude. Il dit, oh, ça c'est pas mon job, allez vous présenter au prêtre, et puis c'est pas mon affaire. Mais bien sûr que c'est pas de cela qu'il s'agit. En fait, Jésus les renvoie aux prescriptions de la loi. En effet, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand un lépreux était malade, il devait aller vers le prêtre et le prêtre le déclarait impur. Donc il était exclu de la communauté. Mais si par une raison ou pour une autre, il était guéri, il devait retourner vers le prêtre qui le déclarait à ce moment pur et il devait offrir des offrandes de purification dans le temple avec l'aide du prêtre. Et après seulement, il pouvait aller rejoindre sa famille et la société dans laquelle il vivait précédemment. Et si ça vous intéresse, pour voir tous ces détails extrêmement compliqués concernant la purification, vous pouvez lire tout cela dans Lévitique chapitre 14, notamment. Une fois tout ceci accompli, le lépreux guéri et purifié reprenait donc une vie tout à fait normale. Et c'est important de dire, c'est que les sacrificateurs n'avaient pas le pouvoir de guérir, bien sûr. Seul Dieu pouvait guérir, mais ils étaient là pour observer la loi et les prescriptions de Moïse concernant la lèpre. Le fil de cette histoire se déroule en deux temps. La première partie, c'est Jésus face aux 10 lépreux. Les 10 hommes se tiennent donc à distance et ils interpellent Jésus. Ils en appellent à sa compassion. Jésus, maître, aie pitié de nous. Cette demande montre que les hommes connaissaient déjà Jésus, qu'ils avaient confiance en lui. Jésus n'était pas un inconnu pour eux. En les voyant, en les regardant avec compassion, Jésus à leur appel, fait appel à leur confiance et encore plus à un appel à garder confiance parce qu'il leur dit, il ne les guérit pas, il leur montre le chemin qu'il faudra faire pour être guéri. C'est intéressant. Il les invite à croire à leur guérison dès maintenant et il les envoie se présenter aux sacrificateurs qui pourront les examiner. Jésus leur donne une direction alors qu'ils n'en avaient pas. D'une certaine manière, Jésus les renvoie à leur quotidien, à faire ce qu'ils devraient faire comme s'ils étaient déjà guéris. Jésus leur donne une espérance alors qu'ils n'en avaient pas. Et je pense aussi, et c'est d'ailleurs comme ça que je comprends ce texte, je crois que les lépreux connaissaient très bien la loi et les prescriptions de Lévitique 14. Et quand Jésus leur ordonna d'aller se présenter au sacrificateur, ils savaient que lorsqu'un lépreux va se présenter au sacrificateur, eh bien, ce sera pour constater leur guérison. En somme, par sa parole, Jésus leur donne la promesse de la purification, la promesse de la guérison. Et cela leur donne espoir, et puisque ça leur donne espoir, ça les met en route. Ils croient en la promesse. Et voyez-vous, là, nous sommes au centre de ce qu'est la foi, selon la définition d'Hébreux 11.1, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Les promesses de Dieu, mes amis, libèrent l'espérance et donnent envie de se mettre en chemin. J'aime le fait que ces lépreux aient été guéris en chemin. Ben oui, c'est magnifique. Cela montre que bien souvent, entre les promesses de Dieu et l'accomplissement des promesses de Dieu, il y a un chemin de patience et d'obéissance vécu par la foi. Il y a toujours, on peut appeler ça aussi un corridor, c'est comme on veut, mais il y a toujours un espace entre les deux. Imaginons maintenant la scène de la guérison, ça doit être top alors. Imaginez ces 10 lépreux qui marchent, qui discutent, et puis tout à coup, est-ce que ça a été instantané, est-ce que ça a été progressif, là, le texte n'en parle pas, ils se regardent les uns les autres. Et il se voit guéri. Il voit guéri son collègue, et il se voit guéri aussi. Ça a dû être quelque chose d'incroyable. Non, mais imaginez. Là, puis tout à coup, paf, le miracle, tant attendu, tant espéré, s'est réalisé. Ils ont la guérison de leur corps. Et un seul sur les 10 va réagir différemment des autres. Lui, il va faire demi-tour. On ne sait pas la nationalité des 9 autres. Probablement, ils devaient être juifs. Le texte ne nous donne pas directement le fait que ça soit des juifs, mais nous laisse suggérer, nous laisse supposer par la remarque de Jésus qui dit au verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu, ce qui suppose que les autres ne devaient pas être étrangers. Quoi qu'il en soit, nous n'entendrons plus parler des 9 autres. Ils ont été guéris, certainement ils ont été voir le sacrificateur, ils ont fait les rites de purification et ils sont rentrés dans la vie civile de leur pays. J'en arrive maintenant à ma deuxième partie de mon récit, le retour du Samaritain guéri auprès de Jésus. À cette époque, une petite parenthèse quand même sur les Samaritains étaient les voisins des Juifs. Et ces derniers les méprisaient et ne les aimaient pas du tout. Voyez-vous, la Samarie, quand il y a eu les déportations juives au temps de Babylone, à Babylone et ailleurs, eh bien, quand on prend des populations pour les mener ailleurs, eh bien, le premier terrain, il y a de la place. Et vu que la nature a horreur du vide, eh bien, s'il y a de la place, il y a d'autres populations qui viennent habiter le terrain. Et c'est ce qui s'est passé. Les populations autres sont venues avec leurs pratiques, avec leurs pratiques sociales et leurs dieux. Les Samaritains n'appartenaient pas proprement dit au judaïsme, mais leur foi était très proche du judaïsme. Et c'est intéressant, ils affirmaient, les Samaritains, descendre de 2 tribus d'Israël, Éphraïm et Manassé. Et là, alors, ça ne devait pas faire plaisir aux Juifs, ils prétendaient être les seuls continuateurs de la foi israélite. Là, ça devait crocher. Ils adoraient le même Dieu. Ils connaissaient le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Ils reconnaissaient Moïse comme prophète. Leur centre religieux, par contre, n'était pas Jérusalem, mais c'était un temple construit sur le mont Garizim en Samarie. Voilà, juste un petit pour situer le Samaritain. Et maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Luc, quand même si avare de ses mots, précise que c'est un Samaritain qui revient? J'aurais pu dire un homme parmi les 9, parmi les 10 est rentré. En nous dévoilant ce détail, l'évangéliste veut souligner, à mon avis, 2 choses. D'une part, il veut nous montrer par là que la grâce de Dieu n'a pas de frontières. Nous le savons, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. D'accord, que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ brise les barrières religieuses et a une dimension universelle. L'évangile n'est pas seulement réservé aux Juifs, mais à toutes les nations. On retrouve cette affirmation, si vous connaissez le texte dans Actes 10, quand Pierre, l'apôtre Pierre, a une vision et il voit une nappe avec des mets impurs qui arrivent, et puis une voix qui lui dit « mange ». Puis « oh, je ne peux pas manger, je suis juif, je ne peux pas manger des choses impures ». Et au même moment, on frappe à sa porte pour qu'il aille parler à un centenier romain qui n'est pas juif. Et il va évangéliser dans cette maison. Et toute la famille reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et là, il y a un verset intéressant qui dit, Actes 10, 45, et les pierres et les juifs qui l'accompagnaient furent étonnés que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, par cette appellation de Samaritain, eh bien, il y a déjà cette idée de cet évangile qui sera universel. Et d'autre part, la deuxième chose, on peut souligner aussi que les Samaritains et les païens répondent souvent avec plus de foi et de reconnaissance à l'appel de l'Évangile que les Israélites eux-mêmes, pourtant appelés les premiers. Mais ça, nous savons, c'est l'olivier qui est greffé, patati et patata. Je ne veux pas, ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais quelque chose m'a frappé en relisant plusieurs fois ce texte, par contre. Quelque chose que je n'avais pas capté la première fois. En revenant sur ses pas, le Samaritain ne respecte pas ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit, va te présenter au sacrificateur. Et il ne l'a pas fait. Et non seulement il désobéit à Jésus, mais il désobéit à la loi de Moïse, qui obligeait les lépreux guéris d'aller se présenter au sacrificateur. Et une chose est magnifique, c'est que Dieu l'accepte. Dieu le laisse se présenter à ses pieds. Il ne le renvoie pas. L'amour de Dieu, mes amis, est beaucoup plus grand qu'on imagine. Il est bien plus grand que nos lois que l'on met. Dieu nous accueille. Le Samaritain, revenons à lui, le Samaritain est d'abord bouleversé. Il n'est plus réduit à un état de lépreux. Il se voit maintenant restauré, guéri. Il peut désormais s'accepter, refaire des projets, revoir un futur, et cela change tout. Le Samaritain est spontané. Cette spontanéité est le signe d'une foi vivante, vraie. Par là, il nous rappelle que la foi en Jésus-Christ est bien plus qu'une simple observance à des rites. C'est une communion vivante avec la personne du Christ. Et cette foi nous pousse parfois à sortir du cadre fixé. Quelle difficulté nous avons à sortir des cadres. Troisième, le Samaritain est reconnaissant. Le fait d'aller épancher son cœur aux pieds de Jésus est en même temps un signe d'une authentique reconnaissance et une véritable profession de foi. D'ailleurs, il chante, il loue Dieu quand il vient vers lui et il reconnaît Jésus comme son Dieu. Donc le Samaritain est bouleversé, il est spontané et il est reconnaissant. Et j'aimerais relever une leçon importante ici, qui m'a aussi interpellé en lisant ce texte. 10 personnes sont venues interpeller à distance Jésus. 10. Sur ces 10, une seule a rencontré intimement Jésus à ses pieds. Une seule. Nous pouvons vivre des puissances de miracles, les amis. On peut être témoin de miracles magnifiques et passer à côté de celui qui fait ses miracles. Beaucoup de personnes, à l'époque même de Jésus, ont vécu des miracles incroyables. Mais tous n'ont pas été touchés. Et nous pouvons lire, c'est marqué dans les évangiles. Je vais vous lire Matthieu 11, 20-22. Alors Jésus se met à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim! Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Dantir ou dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. C'était du côté de Bethsaïda qu'il y a eu les principaux miracles de guérison. C'était aussi du côté de Bethsaïda qu'il y a eu ce fabuleux miracle de la multiplication des pains et des poissons. Ils étaient tous là. Jésus en avait fait des miracles étonnants dans cette région. Et la réalité du royaume de Dieu s'était approchée de ces gens, s'était approchée de ces villes. Et pourtant, comme les 9 lépreux, ils ont goûté à la puissance de Dieu, mais ils n'ont pas été transformés par une rencontre avec Jésus. Le texte dit que ces villes ne s'étaient pas repenties. On définit souvent la repentance comme le retour à Dieu, comme faire demi-tour, comme changer de direction. On le dit pour la conversion. Dans le texte précis, un seul lépreux revient vers Jésus. Un seul lépreux guéri fait demi-tour. Le texte grec dans ce texte ne veut pas dire repentir, mais je trouve l'image intéressante. En effet, en rentrant en lui-même, l'homme retourne sur ses pas, mais différemment. Il est transformé. Il abandonne toutes ses autres réalités, le groupe, la loi, les rites, pour se laisser tomber face contre terre aux pieds de Jésus. Et la réponse de Jésus-là est étonnante. Où sont les 9 autres? Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Jésus cherche le cœur de son peuple. Et il dit plus loin, où sont-ils? Il cherche intimement le cœur de son peuple. Il fait tout, mais ils ne sont pas là. Donc c'est intéressant de voir où sont-ils. La dernière phrase du verset est révélatrice. Il dit au Samaritain, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Le mot « sauvé » ici en grec est « sozo », qui veut dire « sauver, guérir, protéger, délivrer ». Il y a dans ce texte, à mon avis, plus qu'une guérison physique. Il y a une véritable transformation, il y a une conversion. Ce gars, ce Samaritain, il a été touché, il a cru. C'est ce qui distingue du Samaritain, c'est celle des autres lépreux guéris. C'est à mon avis deux choses, la conversion, dont je viens de vous parler, et nous allons voir maintenant la reconnaissance. Son cœur déborde de reconnaissance, on le voit. Le texte nous dit qu'il rend gloire à Dieu à pleine voix et qu'il tombe aux pieds de Jésus pour lui rendre grâce. Cet homme a en fait tout compris. Il a pris conscience de sa transformation et il est envahi par le désir de dire merci. Il est transformé, ébranlé, et cela se manifeste par un épanchement de son cœur pour dire merci. Mais ce gars, il a effectivement tout compris, car Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Il y a de nombreux versets dans la Bible qui en parlent et qui nous le recommandent. Lisons par exemple le psaume 50, verset 23. « Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire, et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. » C'est pas rien. La reconnaissance ouvre la voie du ciel, mes amis, la reconnaissance. Ne négligeons donc pas la reconnaissance dans nos vies, et malgré que ce soit si important aux yeux de Dieu, ce n'est pas toujours évident pour nous, et en tout cas pour moi. Ce récit révèle malheureusement une caractéristique que l'on retrouve couramment dans la nature humaine, dont je fais partie, rassurez-vous, le manque de reconnaissance. Combien de fois, lorsque je suis dans le besoin, lorsque je crie à Dieu pour ci ou pour ça, c'est pas juste j'aimerais, je veux ci et ça, hein? Et que Dieu me vient en aide, que par sa bonté, ma prière est exaucée. Alors voilà, ben ça va bien. Seigneur a répondu, cool, merci. Et la vie continue. Non, mais c'est pas vrai. Enfin, une reconnaissance un peu superficielle. C'est une offense, à mon avis. C'est banaliser l'attitude de la grâce et la bonté de Dieu. C'est banaliser la prière. Quelle est la place que nous donnons à la reconnaissance de nos vies? Posons-nous vraiment la question. Avons-nous le même empressement à courir après Dieu lorsque tout va bien que lorsque tout va mal? Ou bien est-ce que je relègue Dieu à la place du plan B quand il n'y a pas d'autre nécessité? Il faut se poser la question. Si c'est le cas, demandons à Dieu, par la présence du Saint-Esprit en nous, de nous alerter pour que nous changions d'attitude. La reconnaissance nous invite à couronner Dieu comme roi dans nos vies. On le reconnaît comme roi, on le remercie. La reconnaissance permet de détourner le regard de soi, du moi-je, pour le tourner vers Dieu. Et lisons Thessaloniciens, ces fameux versets que tout le monde connaît. Oh là là. Réjouissez-vous toujours. Bang. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances. Telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que veut dire en toutes circonstances? Moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution. En toutes circonstances veut dire en toutes circonstances. Mais on peut le dire autrement. On peut dire, je peux être reconnaissant en toutes circonstances parce que justement ma reconnaissance ne devrait pas dépendre des circonstances. On devrait être reconnaissant tout le temps. La reconnaissance biblique n'est pas un code social. Ce n'est pas un code de politesse que l'on apprend au catéchisme. Elle résulte d'une prise de conscience de qui Dieu est et ce que Dieu fait dans nos vies. Elle grandit dans l'intimité qui cherche la réalité de la présence de Dieu et qui se laisse émerveiller par ce que Dieu fait dans sa vie. Rendez grâce en toutes circonstances est aussi traduit par d'autres versions dans la Bible qui dit remercier continuellement. C'est la même chose. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Que je me réjouisse toujours, et que je prie continuellement, et que je rende grâce continuellement. C'est simple. Hein? Combien de fois disons-nous, la vie c'est dur quand même, les non-chrétiens ils n'ont pas ce problème, mais nous alors, qu'est-ce que c'est que cette volonté, chercher la volonté de Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la trouver? C'est pas facile. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous ce matin. Voilà la volonté de Dieu. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, remerciez continuellement. Vous ne passerez pas, en tout cas, d'abord à côté de sa volonté. Il en aura d'autres, mais commençons par celle-là. Si vous agissez de la sorte, vous êtes pile poil dans la cible. Mais une question se pose. Comment faire pour cultiver le fait d'être joyeux et d'être reconnaissant tout le temps? Pas possible d'être reconnaissant. De quoi tout le temps? Eh bien, je vous invite à regarder à la croix. Le meilleur remède contre l'ingratitude, c'est la croix. Ça fait déjà bien, bien des années que je suis chrétien. J'ai entendu 1000 fois le message de la croix. De ce Jésus créateur des cieux et de la terre qui est mort à ma place et qui est, afin que je puisse vivre éternellement une vie en abondance plus tard, si je crois en lui. Ça est bon. Mais souvent je médite sur la croix. Mais quand on médite, quand on prend du temps, simplement, autre que simplement, oui, Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, hein, mais le créateur des cieux et de la terre, qui s'est fait homme, qui est mort pour vous sauver, pour me sauver. Mais c'est un scandale, c'est pas possible, c'est un mystère. On peut passer sa vie à dire merci pour ça. C'est impressionnant. Plus j'y pense, plus je suis reconnaissant ce que Jésus a fait pour moi. Et c'est cette joie, quand Paul dit « soyez toujours joyeux », il sait bien qu'on ne peut pas être toujours joyeux, il sait bien qu'il y a des manifestations qui nous dérangent. Mais au fond de nous, soyons toujours joyeux de se savoir sauvés, aimés, guidés et rachetés par Christ. C'est ça, soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce. Prier sans cesse, ça peut être des fois plus facile parce qu'on peut prier en langue. Donc voilà. Mais autrement, il faut vraiment regarder à la croix. Et regardez quand on prend la Sainte Cène. Que dit Jésus quand il prend la coupe et le pain? Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous ce que je vous ai fait, ce qui a été fait pour votre salut. Mais ça suppose tout de suite, mais merci. Le premier mot qui vient, c'est merci. On ne peut pas dire autre chose. Merci. Donc la reconnaissance, c'est vraiment... Vous voyez que la reconnaissance est aussi importante que le salut, la reconversion. Fait vraiment partie des fondamentaux de la foi chrétienne. Être reconnaissant pour ce que Dieu a fait et continue de faire nous invite toujours à être reconnaissant pour qui Dieu est. qui Dieu est dans nos vies. En résumé, je terminerai par cette phrase, la reconnaissance est la réponse de mon cœur à l'amour de Dieu dans ma vie. Amen.